plan. Pour chacun d'eux, un véhicule correspond, véhicule qu'il peut employer momentanément après en avoir appris l'usage. Hein. Le corps physique, le corps astral, le corps mental. Passer d'un plan à un autre signifie par conséquent transférer le foyer de sa conscience d'un véhicule à un autre et employer momentanément le corps astral ou le corps mental au lieu du corps physique. L'idée, c'est qu'on pourrait en quelque sorte choisir le corps que l'on veut bien et surtout, bien sûr, si possible, monter, monter dans l'échelle de ces corps pour atteindre quoi ? Un milieu mental. Voici comment il le décrit, ce plan mental. Il se trouve immergé dans ce qui lui semble être tout un univers de lumière, de couleurs et de sons toujours changeants, comme jamais dans ses rêves les plus audacieux, son imagination n'en a conçu l'idée. L'idée, en fait, que le plan mental serait un plan de couleurs comme ça qui, justement, circulerait dans l'air, de plans colorés. Donc, il me semble que là, nous avons nos trois étages, en quelque sorte. Le plan physique, ici, en bas, le plan astral, qu'on va appeler un plan intermédiaire, pour atteindre quoi ? La béatitude, en quelque sorte, j'ai envie de dire presque pré-psychédélique, là, on est vraiment déjà dedans, les couleurs, les sons, c'est l'audiovision, si vous voulez, de ce que la nouvelle génération New Age, dans les années 60, va développer, si possible, avec l'aide de psychotropes, dans des environnements audiovisuels et autres, on est vraiment en pleine... Enfin, c'est du hippie avant l'heure. Et donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment cela, jusque d'ailleurs à la question même du naturisme. Kubka était naturiste, il pratiquait le naturisme, ce qui avait vocation en général à un petit peu heurter la sensibilité de ses voisins à Neuilly, sa fille, eux-mêmes allaient dans le jardin, et donc étaient vraiment dans une logique de capture de la lumière. Vous allez voir que la thématique de la lumière l'obsède beaucoup, et en termes de diététique, il avait tout un usage de l'alimentation, permettait un développement personnel aussi. C'est un personnage qui est en cela extrêmement moderne. Donc là, on le voit, il me semble que ce tableau, en fait, c'est le rêve de quoi ? C'est le rêve justement de cet artiste qui, grâce en quelque sorte aux familiarisations avec l'initiation théosophique, permettrait en quelque sorte de s'échapper de la trivialité d'un monde en quelque sorte terre à terre pour atteindre justement la béatitude du plan mental et donc de cette féerie. L'abstraction, donc, parce que c'est ça qui nous intéresse, serait donc quoi ? Ce serait le vocabulaire de ce nouvel état, de cet état évolué. L'abstraction, donc, le vocabulaire de l'abstraction, ce serait la peinture à destination de l'espèce évoluée, de l'espèce qui a pour particularité, justement, de passer d'un corps astral au corps mental. Donc là, on le voit, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est tout de suite, dans la pensée de Kubka, de penser l'évolution de la peinture, et en particulier de la peinture moderne, accompagnant en quelque sorte l'évolution de l'espèce, et peut-être même facilitant, peut-être, familiarisant peut-être l'humanité avec justement l'ouverture grand à la vision justement du plan mental. Donc, dans son texte, ce qui m'intéresse évidemment, Charles Leiter, c'est qu'il reprend différentes catégories de rêves et dans laquelle, vous voyez bien, la question de l'anticipation est importante. La deuxième catégorie, le rêve prophétique. La troisième, le rêve symbolique, mais dont on se dit que c'est quoi ? C'est pour transmettre au cerveau physique une information concernant l'avenir. C'est-à-dire que dans, manifestement, l'économie, on va dire, du statut du rêve, la question de la projection dans l'avenir, par la prophétie, par justement une information concernant l'avenir, vous voyez bien, est importante. Et il me semble que c'est à nouveau vraiment une manière de regarder d'un peu plus près ce tableau comme étant justement l'usage du rêve, comme le rêve de la prophétie. Quelle prophétie ? L'avancée de la peinture vers justement le monde de l'abstraction. L'abstraction, en quelque sorte, serait ici, et c'est déjà là, une grande avancée dans notre affaire, en tout cas dans la proposition que je vous fais, c'est-à-dire que ce tableau serait le tableau non pas du rêve, le tableau plus précisément du rêve du futur de la peinture qu'est l'abstraction. Et quand on regarde effectivement le travail et l'évolution du travail rapide de Kubka, vous allez voir que ce qui va dominer, c'est la disparition de ce corps physique, j'ai envie de dire même la disparition de cette enveloppe un peu intermédiaire qu'est le corps astral, pour ne plus être que dans les plans de couleurs. je vais dire, son entrée en matière dans justement la peinture abstraite à partir de 1912. Vous voyez ici un tableau de 1912 qui s'appelle Plan par couleur, ou Plan de couleur. Ce sont, on le voit bien en fait, hein, des orchestrations de plans colorés, donc sans aucune référence bien évidemment à une quelconque réalité extérieure, mimétique, figurative. Donc en gros, là, si vous voulez, ce qui sépare de ce tableau de, du tableau rêve, c'est 6 à 3 années, hein, si on le date de 1909, c'est 3 petites années, et en 3 petites années, il a effectivement la franchi définitivement ce saut vers l'abstraction. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va vers cela, hein, comment il va progressivement, en quelque sorte, occulter, c'est le cas de le dire, le plan physique, pour en quelque sorte l'occuper presque de plus en plus, voire exclusivement, par les plans de couleur. Voici une œuvre intermédiaire, qui est une œuvre en fait de reprise. Alors je ne sais pas si vous arrivez à distinguer ici, mon petit, voilà, vous arrivez ici à distinguer, je pense, un visage féminin. Il s'agit donc d'un portrait plus ancien de Kupka. C'était un très très bon portraitiste, Kupka. Je ne vous ai pas montré des œuvres de la fin du 19e, mais c'est quelqu'un d'assez virtuose. Et ici, donc, il reprend un tableau figuratif, bien évidemment, sauf qu'il le recouvre, hein, de manière très systématique, de plans de couleur pour ne faire plus qu'apparaître, hein, une sorte de petite tête comme cela, hein. Le corps a totalement disparu derrière le plan, donc on voit très très bien que son objectif là, hein, est vraiment de faire passer la peinture dans un autre régime qui serait celui effectivement de la fin, hein, du régime figuratif. On va appeler ça le régime de l'œil classique, de l'œil du corps physique, pour aller vers justement un autre plan. Donc, j'ai ramené juste un détail, retenons d'ailleurs le détail, ce qui est intéressant, de cette bouche, hein, qu'on va retrouver tout à l'heure, parce que là, je suis en train de vous faire le portrait, si vous voulez, d'un allumé, là, un peu quand même, les esprits et autres, vous allez me dire, mais est-ce que c'est le vrai Kupka? Non, l'autre Kupka est toujours très présent, hein, le Kupka hypersensuel, on pourrait dire même érotique, hein, il y a toute une érotique dans son travail, et en particulier du corps féminin, ce que l'on retrouve dans cette bouche, hein, qui est vraiment une bouche d'alignienne avant l'heure, hein, très très ouverte, sensuelle, comme ça, avec ce rouge, du rouge à lèvres qu'on va retrouver tout à l'heure, ce rouge irubescent, très séducteur, qui est encore présent ici, hein, mais c'est presque une dernière trace de ce corps, justement, de la séduction physique pour aller vers, effectivement, un tout autre plan. Ce qui nous donne, hein, on le voit ici, par exemple, Ordonnance sur vertical jaune de 1913, c'est-à-dire 2 ans après le tableau que je viens de vous montrer, là, on n'a plus qu'une orchestration de plans. Hein, l'arrière-plan, j'ai envie de dire, l'arrière-plan du portrait, hein, qui était encore une trace, hein, une sorte de reste, on va dire, de cette tradition justement figurative de la peinture, c'est totalement justement dissoute dans des purs plans de couleur. Ce que l'on retrouve, hein, à nouveau dans l'évolution très rapide de certains pastels, comme ceux-là, qui datent des années 1907-8, qui travaille directement sur la question de l'imaginaire du corps radiographique, bien évidemment. Le corps est quand même très très présent, sa sensualité aussi. Ce que l'on retrouve ici par plan de couleur et la manière dont très très vite ce corps, évidemment radiographié, transparent, translucide, va déboucher sur, une fois de plus, des purs pans de couleur. Ce tableau m'intéresse pourquoi ? Parce qu'on le voit, les formes courbes, là ici, hein, viennent manifestement de ce type de tableau encore figuratif, mais très très vite, on le voit, hein, débouche à terme sur ce type d'œuvre. Hein, la fameuse Amorpha fugant de couleur, qui, je vous rappelle, est présentée donc au Salon d'automne de 1912, et qu'on peut le considérer comme la première grande œuvre abstraite proposée au public. Donc dans l'histoire de l'abstraction, c'est important, puisque c'est vraiment, vous savez, dans l'histoire de l'abstraction, on se dit toujours, mais quel est le premier tableau abstrait ? Alors autant vous dire que, bah, pourquoi pas Turner, pourquoi pas même les marbrures, vous voyez bien, de certaines fresques de la Renaissance. L'une des manières peut-être de résoudre cette question, ce dilemme, c'est de se dire quand est-ce qu'un vrai tableau abstrait, c'est-à-dire non figuratif, a-t-il été présenté dans un lieu public de l'art, et là en l'occurrence le Salon d'automne, le salon moderne de l'époque à Paris. Voici donc Amorpha fugant de couleur, dont on voit très très bien, hein, c'est une de ses origines, c'est une étude préparatoire au tableau, et on voit bien que toutes les arabesques, les lignes, hein, ont quelque chose à voir effectivement avec le souvenir, hein, manifeste de ce corps, qui est un corps, on le voit très bien dans ce tableau comme celui-ci. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez le motif, on va y revenir tout à l'heure justement, c'est une jeune femme qui se mire devant un miroir. Vous allez voir que la jeune femme nue devant un miroir va être aussi une autre clé d'interprétation de notre soirée. Alors, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là et se dire que l'une donc, des grandes interprétations pour comprendre un tableau comme celui-ci et la révolution qu'il peut justement proposer dans l'histoire de l'art et des formes, ce serait de se dire donc qu'un tableau comme celui-ci représente donc un autre plan de réalité. Alors bien sûr, les choses se complexifient puisque le titre, vous le voyez bien, est un peu plus, nous mène vers d'autres contrées. Amorpha, sans la forme, fugue de couleurs. Fugue, évidemment, musicalise cette thématique, une fugue, et là c'est important, mais évidemment, indexe plutôt cette question autour de la représentation de la musique, le musicalisme, ce qui est toute une autre affaire. Mais ici, en fait, on s'aperçoit que toutes les sources convergent dans le même sens, c'est-à-dire un vocabulaire effectivement débarrassé des traditions figuratives. Alors, je voudrais... j'ai envie de dire, bloquer l'interprétation du rêve, du tableau qui nous occupe aujourd'hui à cela. Parce que vous allez le voir, sinon, c'est vrai que ça a tendance quand même sérieusement à uniquement présenter en fait Kubka et le Kubka qui va vers l'abstraction comme un Kubka, vous le voyez bien, très tributaire, voire même un peu scolairement tributaire de tous les textes de la théosophie et autres, et d'en faire, si vous voulez, un pur théosophe qui appliquerait en quelque sorte le programme de l'évolution de l'espèce à la peinture. Vous allez voir que c'est plus complexe que ça, et dans le cas de Kubka d'ailleurs, tout est complexe. Il y a plein de sources qui viennent, qui peuvent nous paraître, avec le recul, extrêmement contradictoires, et je vais vous montrer qu'en fait elles le sont beaucoup moins qu'on peut le penser aujourd'hui, avec nos petits réflexes un peu binaires, c'est rationnel, c'est irrationnel, c'est matérialiste, c'est spiritualiste. À cette époque-là, vous allez le voir, et Kubka est un exemple typique de cette culture fin du 19e, tout cela se mélange. Alors, pour cela, je pense qu'il faut faire un autre détour, un autre type de lecture, de source, d'inspiration, j'ai envie de dire, d'un tableau comme celui-ci, et qui nous renvoie justement à cet autre aspect que j'ai déjà convoqué avec les lèvres pulpeuses là, du tableau, si vous voulez, des plans. C'est évidemment la thématique de l'érotisme, la thématique du corps nu. D'où le titre de cette petite causerie, La vérité nue de la peinture. Vous allez voir que l'idée est de passer par la vérité, la nudité en quelque sorte du corps, pour aller vers la vérité de ce qu'est la peinture. Donc je reprends ce tableau 1909, donc de cette jeune femme devant un miroir, parce que vous allez voir que il me semble que ce tableau est contemporain du tableau Le Rêve, et que s'il est contemporain, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je crois que dans ce corps éthéré, il y a aussi, vous allez voir, ce corps nu un peu luminescent, il y a la thématique justement une autre thématique qui transpire. Donc voici une petite œuvre là, vraiment du début du siècle là de Kubka, qui, vous le voyez bien, en fait moins un esprit que quelqu'un d'un peu coquin, qui aime beaucoup la culture, vous le voyez bien, Montmartroise, des concerts et autres, et qui peint, comme beaucoup d'artistes de l'avant-garde, la prostitution, le commerce, justement, du corps féminin et autres. Alors, voici quelques œuvres, justement, d'un Kubka, vous voyez bien, qui est là beaucoup plus incarné, je veux dire, qui est beaucoup plus dans l'esprit de son époque, et qui traite de cette question, justement, du nu féminin. Qui la traite, j'ai envie de dire, dans la tradition et de la caricature et autres, qui s'intéresse beaucoup, justement, à la question des faux-semblants, de l'artifice, de l'amour vénal, de la prostitution, bien sûr, et Dieu sait que beaucoup d'artistes, Picasso et autres, bien sûr, je passe sur les détails, s'intéressent de Toulouse-Lautrec et autres, sont rivés sur cette question. Vous allez voir que, justement, Kubka, lui, le fait, mais d'une manière qui est un peu particulière, et j'aimerais, justement, revenir sur cette façon d'approcher le nu, et en particulier le nu féminin. Voici, donc, un détail d'une gravure qu'il publie dans une revue très coquine, caricaturale, bon enfant, un peu, vous voyez bien, c'est la gouaille, ça c'est la gouaille de Paris, du Montmartre, La vie en rose. La vie en rose qui est, parmi toutes les petites feuilles de choux, justement, de satire de la société et de ses conventions, travaille beaucoup justement sur l'anti-modèle bourgeois, si vous voulez. Hein, et donc, cette gravure est directement ainsi, donc vient de lui. Voici dans son entier, la page justement de la vie en rose. Donc, c'était un dessin de Kubka, indiqué ici. Et si par un beau jour la vérité venait ? Donc là, qu'est-ce que l'on constate en fait ? Le recours à une forme allégorique de la peinture, assez connue, hein, la vérité, l'allégorie de la vérité, donc ici incarnée par une jeune femme, si possible assez opulente, et qui détient un miroir. Vous voyez en fait dans son bras, elle a un miroir ovale, ce que l'on voyait tout à l'heure dans la peinture de 1909. Tout autour d'elle, bien évidemment, hein, la société, les classes aussi, hein, qui sont présentes dans cela. Alors, le dessin va être repris, réinterprété 2 ans plus tard. Le voici. Alors, le contexte a un tout petit peu changé, mais en gros, si vous voulez, on le voit bien, c'est les corps constitués, c'est la police, l'armée, c'est le bourgeois avec l'habit. Et puis, le clergé. Alors, j'ai présenté Kubka en théosophe, plus ou moins affilié à la théosophie. C'est surtout un anarchiste. Hein. C'est un anarchiste très anti-calotin, très anti-contre l'Église institutionnelle, évidemment, de l'époque. Et c'est un artiste, d'ailleurs, qui sera anarchiste jusqu'au bout, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui sera extrêmement vraiment fidèle en quelque sorte à cet attachement dès le départ, qui publie ses dessins dans des revues anarchistes. C'est pas le cas d'Avion Rose, qui est un petit peu plus une revue, si vous voulez, coquine. La gravure est publiée donc en 1905 dans Les Temps Nouveaux, qui est la revue de Jean Grave, qui est une des grandes revues intellectuelles de la pensée anarchiste de l'époque. Donc, pourquoi j'évoque cela ? C'est parce que il met en scène, en quelque sorte, justement, toute l'autre dimension qu'il ne faudrait pas oublier, parce qu'effectivement, le projeter dans cette sorte de spéculation théosophique l'écarterait trop, manifestement, de d'où il vient, hein, c'est-à-dire vraiment d'un engagement idéologique, sensible et politique auprès de l'anarchie. Et où la question, bien évidemment, hein, de démystifier les grandes conventions sociales, donc est très très présente. Alors cette thématique de la vérité nue, hein, est très présente, hein, dans la culture visuelle et en particulier justement populaire des revues de caricatures. En voici un autre exemple qui montre que Kubka n'est pas le seul à mettre en scène cette figure de la vérité nue. On la retrouve chez Josso ici, dans un numéro, alors vous le voyez bien, c'est la jeune femme avec son miroir, et puis autour d'elle, évidemment, des hommes qui la convoitent. Elle vient, je l'extrais, donc, d'un numéro spécial de l'Assiette au beurre. Kubka a fait 2 numéros spéciaux, hein, a couvert 2 numéros spéciaux, dont l'un sur l'argent, et l'autre sur la religion. Et donc celui-ci, c'est pas son numéro, mais en tout cas c'est celui où Josso donc, propose justement cette figure de la vérité nue, dans un numéro consacré à la passementerie, où l'on voit bien, hein, la figure, hein, évidemment, s'oppose aux vêtements comme codification sociale, le pouvoir, les rapports de classe et autres, je n'insiste pas. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que c'est une thématique que lui-même, hein, évidemment, partage avec d'autres artistes. Il est passé, je vous rappelle, avant d'arriver à Paris, par Vienne, et chez Hodler, par exemple, hein, on le voit, les oripeaux, les vêtements, c'est le mensonge, hein, c'est le code social. Alors que la vérité nue, bien sûr, hein, c'est l'être, hein, l'être pur, en quelque sorte. On voit très très bien qu'ici, ce qui est en jeu, c'est le vêtement comme le trompe-l'œil, en quelque sorte, hein, le trompe-l'œil social. Qu'est-ce que fait Kubka ? Il suit, hein, les pas, bien évidemment, jusqu'à ceux de Klimt, par exemple, qui ici, hein, incarne la vérité nue, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs dans la phrase qui l'accompagne ? Qu'il ne faut pas faire de la peinture pour tous, hein. Il faut faire de la peinture pour ceux qui, en quelque sorte, la méritent, en quelque sorte. Il ne faut pas chercher à plaire au public. La peinture a une visée beaucoup plus ambitieuse. Il ne faut pas être effrayé. Effrayé, c'est une leçon aux artistes, Hein, il ne faut pas être effrayé par l'idée que, bah, somme toute, on ne va pas faire l'unanimité, qu'on ne va pas plaire à tout le monde, que l'on peut faire une peinture justement qui dérange et qui révèle, justement, dans le cas de Kubka et de ses caricatures, bien évidemment, qui révèle certains désordres sociaux. Alors ça vient de loin, bien évidemment, hein, quand on va dans l'iconologie, chez Ripa, vraiment dès la culture renaissante, on voit immédiatement donc, la vérité hein, incarnée par ce nu fait féminin qui détient dans sa main la lumière. Et vous allez voir que toute la culture lumineuse de Kubka, parce qu'il enfin, va faire les disques de Newton, c'est une peinture très haute en couleur, hein, toute la culture de la lumière vient de là. Hein, c'est-à-dire que pour lui, la vérité, bien sûr, s'oppose à l'obscurité, à l'obscurantisme. L'obscurantisme, justement, de ceux qui, enfin, contre qui il lutte, hein, qu'on a déjà vu dans la caricature. Donc j'ai juste ramené dans l'iconologie de Ripa les apparitions de la vérité qu'on oppose. Ici, donc, Ripa l'oppose à la bougia, B-U-G-I-A. La bougia, c'est le mensonge. Hein. Le mensonge qui est affublé, on le voit, de vêtements avec des masques hein, qui sont les masques du trompe-l'œil et autres. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est que ce que peint, évidemment, par le nu, et en particulier le nu féminin, Kubka, ce n'est pas simplement, la vérité contre le mensonge, c'est aussi, tout simplement, peut-être, la vérité par la peinture, ou la vérité de la peinture. Il faudrait débarrasser la peinture de certains artifices, en particulier ceux de la séduction. Et là, vous le voyez, en fait, c'est un banquier qui est affublé d'un ventre, évidemment, rempli de pièces d'or, qui regarde le modèle, qui est en fait la peinture. Mais une peinture, justement, qu'il voudrait débarrasser de ses oripeaux. Alors, je vais devoir courir, hélas, contre le temps, donc on va essayer d'avancer. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette thématique de la vérité nue, donc Kubka est allé la chercher, bien sûr, dans une culture fin de siècle qui s'intéresse à ces questions, Camille Claudel, la vérité sortant du puits, mais qu'on pourrait aller la chercher beaucoup plus précisément dans justement ce contexte, j'ai envie de dire, anarchiste. Voici un tableau de Ponceau Débat qui s'intitule donc La vérité nue sortant du puits et qui, donc, on le voit en fait, incarne cette jeune femme avec son miroir qui va révéler la vérité sortant du puits avec l'ecclésiastique, bien sûr, et puis un homme plus ou moins armé qui représente probablement l'armée. On retrouve évidemment toute la thématique ici. Pourquoi ce tableau m'intéresse ? Parce que ce tableau a été peint par l'artiste en faveur de Dreyfus. Nous sommes en pleine affaire Dreyfus, et la vérité, bien évidemment, nue, c'est la vérité de l'affaire Dreyfus contre les fameux pouvoirs institués, le clergé et l'armée réunis, au profit de l'obscurantisme. Pourquoi cela m'intéresse ? Parce qu'à cette époque, là, vous le voyez bien, alors j'ai ramené juste une petite caricature de Zola, hein, l'affaire de la vérité nue sortant du puits a beaucoup à faire avec justement tous les débats autour de Dreyfus et autres. Alors ici, un tableau de Jérôme hein, qui était l'envers de Ponsa, c'est-à-dire qu'en fait Jérôme est anti-Dreyfusard, et donc va camper la vérité en fait du côté. Hein. Évidemment, du camp de ceux qui sont contre l'affaire Dreyfus. Alors, je n'insiste pas, mais ayons en tête simplement que tout cela, évidemment, a des résonances dans la tête d'un Kubka. Pourquoi ? Parce que ce que nous dit Kubka, c'est que le peintre a vocation justement à révéler, en dehors des artifices, justement des codes sociaux, à révéler quoi ? À révéler aussi la vérité de la peinture. Alors, son rapport à la peinture, vous allez le voir, est assez particulier. C'est un rapport, il a tout à fait conscience que le peintre est dans la séduction, hein, et attire, hein, bien évidemment, attire par les couleurs. Voici ici les gigolettes, c'est toute une série très fauve des années 1907, 1908, qui sont contemporaines d'un du rêve, et où il représente la séduction, bien évidemment, de la prostitution, mais il la dénude. Il la dénude ici, Lio, la vache, hein, on le voit bien, c'est une peinture très particulière, elle est de 1910, il n'y a plus que ce rouge irubescent. Il nous parle de quoi ? Il nous parle d'une femme qui se dénude, qui devient la vérité, bien sûr. La prostitution devient là, non plus, c'est plus la prostituée là. C'est une forme de forme un peu archaïque d'ailleurs, de femme, et qui renvoie en fait à la vérité de la peinture. La vérité, c'est quoi ? Regardez ici, en fait, on voit toute la surface hein, du support. Ce n'est pas un portrait, c'est une surface, le plan de la toile, recouvert de couleurs en un certain nombre assemblées. C'est-à-dire que cette œuvre, on le voit en fait ici, est en train de progressivement, derrière la disparition du maquillage et des affublages du vêtement, en fait, de révéler ce qu'est la nature même de la peinture, une surface plane recouverte de couleurs d'un certain nombre assemblées. C'est l'anti-illusionnisme là, qui est en jeu derrière tout cela. Ce qui n'est pas rien, puisque quand on regarde en fait, l'apparition de ce nu et de cette thématique, en quelque sorte, de l'allégorie de la vérité, elle est quelquefois, dans l'œuvre de Kubka, affublée de la palette, et donc, bien évidemment, associée assez clairement à, justement, la peinture. Ce qu'il nous dit là, par les corps translucides, le corps féminin, c'est nous parle de vérité, d'illumination, bien évidemment, contre le trompe-l'œil, bien sûr, le trompe-l'œil de la peinture traditionnelle. La vérité de la peinture ne sera pas simplement la représentation telle qu'elle de la réalité, mais au contraire, nous faire passer vers d'autres plans. Donc, j'ai ramené juste ici certaines gigolettes, je vais devoir avancer parce que je voudrais avancer dans ma petite démonstration. J'ai juste ramené ici l'œuvre de Fabrice Hibert, la toute première œuvre d'un artiste contemporain extrêmement important, me semble-t-il, Fabrice Hibert. Un mètre carré de rouge à lèvres. Il a donc entièrement recouvert, c'est un monochrome, entièrement recouvert de rouge. Et j'ai envie de dire que ici, Fabrice Hibert, s'inspirant, il le dit clairement, il avait vu une exposition de Kubka au Sable d'Olonne, il avait vu ses gigolettes, et ce rouge l'avait vraiment fasciné. Et qu'est-ce qu'il fait de ce rouge? Vous voyez bien, la démonstration purement matérielle d'un pan de couleur brute. La peinture, ce n'est que cela. C'est pas le trompe-l'œil, c'est pas l'illusion, c'est un plan de couleur radical qui est offert donc justement au désir optique et enfin justement du spectateur. Alors quand on regarde ces tableaux-là, vous allez voir le rouge évidemment remplit la surface et à terme évidemment on retrouve Amorpha fugant de couleur. Je voudrais juste vous montrer comment ces deux traditions qui nous paraissent, vous voyez bien, assez contradictoires. D'un côté, un théosophe, lecteur d'Annie Besant, de Charlotte Better, et puis de l'autre côté, notre ami Kubka, anarchiste, anti-calotin, vous voyez bien, comment tout cela se raccorde? Il y a d'un côté, vous voyez bien, le plan de couleur, la pure matérialité telle qu'elle qui nous est offerte, sans probablement arrière-plan, et puis de l'autre côté, une peinture abstraite qui nous parle que d'autres choses, que d'autres plans de réalité supérieure. Eh bien, vous allez le voir que tout cela, justement, à cette époque-là, est dans la tête de Kubka, en quelque sorte, se réunit. Se réunit dans quoi? Se réunit dans, précisément, ce que pour lui, la peinture abstraite est. La peinture abstraite est, en fait, une étape. Ce n'est pas un objectif, un point absolu, en quelque sorte. Ce n'est qu'une étape intermédiaire avant quoi? Et là, je cite donc, son fameux ouvrage de la création des arts plastiques, qui est publié donc, enfin, qui est écrit entre 1909 et 1913, donc qui est directement contemporain probablement de la réalisation du rêve et surtout d'Amorpha fugant de couleur. Dans son texte conclusif, qui est un épilogue et qui nous parle de la peinture du futur, il nous dit la peinture du futur, ce sera quoi? Ce sera tout autre chose, une communication beaucoup plus directe, qui, dit-il, passant par l'invention de la X-graphie, les radiographies dont on a vu qu'elles étaient assez importantes dans son imaginaire visuel, est capable de dévoiler les événements les plus subtils actuellement invisibles, l'entente s'établissant sans aucune médiation matérielle. En gros, si vous voulez, quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y aura une communication directe à terme, d'esprit à esprit, une communication télépathique. C'est-à-dire que dans l'esprit de Kubka, le substrat matériel, qu'est encore la toile avec des pigments, vous voyez bien, sur une surface réelle, n'est qu'une sorte de moment intermédiaire avant le stade le plus évolué, celui qu'Annie Besant et Charles Better avaient déjà annoncé, le stade de la compréhension la plus transparente, le devenir télépathique de l'espèce et de l'art. Pour lui, en fait, à terme, l'art sera complètement débarrassé de la matière et en fait, ce sera une transmission directe d'émotions entre le spectateur. Ce qui a d'ailleurs une conclusion directe, les marchands de tableaux, que deviendront-ils? Ce que je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est engagé dans l'anarchie et très retors à tout ce qui est de l'ordre de la marchandisation de l'art. L'idée, évidemment, de la spéculation financière autour des tableaux et autres, on peut dire qu'il n'anticipait que le devenir effectivement, d'un art qui est quand même pas mal travaillé par ces questions. Donc la dématérialisation de l'art, pour lui, était une étape supplémentaire, justement, dans un caractère très désintéressé. C'est-à-dire que l'art va devenir une sorte de pure pensée, les fameuses circulations de pensée, ça sera que cela. Alors vous allez me dire, Bon, alors, on revient à notre point de départ, là, au Kubka illuminé. Vous allez voir que ces sources, les sources mêmes de cette humanité qui communiquerait dans la télépathie, c'est des sources qui, à la fois, sont communes à la théosophie, et j'ai envie de dire à la dimension un peu spirituelle et New Age, justement, des disciples de Blavatsky, mais aussi à son pan anarchiste. Il parle de psychographie pour parler de l'art du futur, hein. En gros, si vous voulez, de la télépathie. Donc le terme se retrouve dans quelques textes, et ce qu'on retrouve dans l'iconographie de l'époque, hein, avec ses rayonnements et autres, des rayonnements qui permettraient de communiquer directement. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la fantaisie physiologique de Kubka lui-même, hein, où l'on voit bien ce cerveau irradiant avec ces sortes de cercles concentriques, hein, de petites particules vibratoires qui permettraient de communiquer la sensibilité justement en dehors de l'enveloppe corporelle. Alors, pourquoi, en définitive, tout cela m'intéresse ? Parce que ce devenir télépathique de l'art, qui m'a occupé dans une exposition, comme Alain Lombard le rappelait tout à l'heure, dans une exposition à Metz il y a 2 ans maintenant, eh bien, on le retrouve dans l'époque, chez William Crookes, par exemple. Crookes, qui est l'inventeur du tube de Crookes, qui a permis la radiographie, et ce que l'on retrouve ici, hein, c'est-à-dire des rayons invisibles et autres, on y est complètement, hein, 1906, c'est contemporain, donc tout le discours scientifique. Je vous rappelle que Crookes est un physicien prix Nobel, c'est pas un allumé. Il pense à tout cela, mais plus curieux encore, à qui adresse-t-il donc cet hommage de la vérité nue ? À Malato. Malato, qui est-il ? C'est une de ses sources dans le champ, évidemment, anarchiste. Voici Charles Malato dans la revue Les Temps Nouveaux, je vous rappelle, une revue donc, de Jean Graff sur l'anarchie, et il est l'auteur d'une philosophie de l'anarchie. Quand on regarde un peu plus près dans les textes justement de la philosophie de l'anarchie, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, un Charles Malato qui nous parle du devenir de l'espèce, du futur radieux de l'anarchie, dans lequel la faculté de transmettre ou de recevoir la pensée sans le secours d'agents extérieurs, cette sorte de télégraphie sans fil, il appelle ça télégraphie sans fil, moi je viens d'appeler ça la télépathie, bien évidemment, hein, il pense qu'à terme, l'humanité avancée sera dotée, dit-il, d'un sixième sens, et ce sixième sens sera le sens de la communication, justement, dans l'atmosphère et autres, ce que l'on retrouve tout à fait dans le projet, justement, du rêve de la nouvelle société, justement, de Kubka. Alors, juste pour en rajouter quand même une petite couche, Jean Jaurès. Le premier Jean Jaurès est totalement dans cette affaire. Voici ici les rayonnements du cerveau humain. Ce n'est pas de 1917, c'est un texte beaucoup plus ancien, de la fin du 19e. C'est un des premiers textes de Jean Jaurès, philosophe, avant d'être l'homme politique que l'on connaît, et qui nous parle exactement de cela. C'est-à-dire qu'on le voit très très bien, en fait, dans les pensées, justement, progressistes, anarchistes de l'époque, cette idée est extrêmement présente. Et il faut l'avoir en tête, parce que je pense que ça nous permet de comprendre en quoi est-ce que, j'ai envie de dire, ce devenir un peu translucide, illuminé, de l'espèce et autres, et télépathique, est quelque chose qui est à nouveau, hein, partagé par ces deux courants. Voici Jean Jaurès, avec la vérité sortant du puits. Donc, je n'insiste pas. Ce qui m'intéressait, puisque là, je dois avancer dans mon affaire, c'est de vous montrer combien, effectivement, hein, il est allé puiser, 1891, vous voyez la date d'origine, hein, du texte de Jean Jaurès, dans De la réalité du monde sensible, qui nous parle d'un monde sensible que l'on va, justement, essayer de quitter pour aller vers d'autres plans, et d'autres plans de réalité qui seraient, justement, un plan supérieur, un sixième sens. Ce tableau-là, me semble-t-il, conjoint les deux traditions. Et ça, c'est important, parce que vous le voyez bien dans l'histoire de l'art, je vais devoir terminer là, on a toujours, en quelque sorte, la même division. Il y a d'un côté les matérialistes, what you see, ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez, le plan sensible, matériel de la toile, et puis de l'autre côté, hein, les spiritualistes, qui voient dans l'abstraction, effectivement, une sorte d'entrée, hein, dans une autre dimension, dans un autre plan, en particulier l'au-delà, ou un monde spirituel. Eh bien, Kubka, en fait la synthèse de tout cela. Ça, c'est très, très clair. Il est dans l'esprit, dans la chair, le désir, le corps, c'est clair. Et puis, par ailleurs, évidemment, un corps qui accède à, justement, des niveaux de développement. Et l'abstraction, pour lui, ce sera cela. Ce sera vraiment le point intermédiaire, on l'a vu, d'avancée d'une espèce. Le vocabulaire pour la nouvelle espèce, qui sera la nouvelle, enfin, l'espèce des lendemains radieux. Voilà, ça c'était 1906, et le XXe siècle évidemment était un tout petit peu moins radieux, mais bon, et il nous offre quand même ce projet, et on peut peut-être le prendre comme tel, c'est, je trouve, un très très beau projet, c'est un personnage absolument fantastique, et merci Je pense qu'on peut le remercier pour ça, pour tous ses projets. Le voici juste avant, quelques jours avant sa mort, chapeau. Monsieur Kupka, merci. Alors, je suis très mal élevé parce que je pensais qu'on allait laisser un petit peu de temps d'échange entre nous. Je suis obligé. Et je serais vraiment volontiers resté ici. Je serais même fait la petite journée de demain, donc à Avignon, au soleil, ça aurait été bien agréable. Mais j'ai quelques petites obligations, et en particulier tous les séminaires sont concentrés demain matin. Donc, l'université me rappelle. Donc, je dois prendre le train, je vais m'échapper.
Vous reviendrez ?
Comment ?
Vous reviendrez ?
Avec plaisir, comme vous voulez.